Votre show de cartes est une présentation de l'Imaginaire, les boutiques offrant le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Et ça, c'est garanti. Vous les trouver à Québec, Lévis, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Bruno et maintenant sur 18 000 pieds carrés, deux étages au Carrefour Laval. Incroyable! Également disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au imaginaire.com. Merci d'être là. Bon épisode.
J'ai comme eu peur quand on s'est parlé aujourd'hui puis que tu m'as dit que t'hésitais à t'habiller comme Borat. Et là, la prochaine affaire que je constate, c'est que les deux, on est assis ici, chacun devant nos écrans, vêtus tout de noir, ce qui me rassure.
Je suis souvent très habillé en noir, mais moi, Greg, je ne te vois pas. Je vois seulement ton nom dans mon écran. Tu n'as point ouvert ta caméra.
Oh! C'est parce que tu ne le méritais pas.
Oh! Comment qui va, Sergent Big?
Écoute, ça va. C'est Noël, mon Yannick?
Oui, malgré le 20 degrés de ce week-end. Effectivement, mon Greg, c'est un mercredi de Noël aujourd'hui.
Mercredi de Noël, hobbyment parlant, pour réutiliser un terme qu'on a utilisé plusieurs et que moi, j'ai inventé. Je ne sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas, sur ce podcast-ci, je l'ai inventé. Donc, je peux prendre la paternité de ce terme-là. Je ne suis pas papa dans la vie, mais je peux prendre la paternité de ça au moins. Les gens avaient l'air heureux aujourd'hui, Yannick. Puis quand je dis que c'est parce que c'est Noël, c'est parce que c'est la sortie de la série 1, rien de moins. De Upper Deck, bien sûr, je ne peux pas dire qu'on l'attendait depuis longtemps parce que la série 1 de l'année passée est sortie il y a genre, 6 mois, mettons.
Et la série 3 de l'an passé est sortie, là...
2 mois et demi.
Ouais, quasiment.
Mais agréablement surpris par ce produit-là. On va faire un review de ça aujourd'hui, bien sûr. On va faire un review également de Prism World Cup qui est sorti aujourd'hui. Celui-là, on l'attendait depuis longtemps avec des attentes élevées et je pense que ça a livré. Donc, on est pas mal là aujourd'hui. Yannick, moi, j'ai échangé avec beaucoup de monde. J'ai fait un live tantôt à la boutique de Laval. J'ai ouvert 2 boîtes. On est tombé sur une Matt Boldy, une Ken Johnson. J'ai été agréablement surpris, comme je l'ai dit, par la qualité du produit. Mais toi, là, dans ton royaume de Québec City, comment t'as vécu ça?
Comment j'ai vécu ça? Je savais que ça allait pas être l'an passé. Je savais que ça allait pas être v'là 2 ans. Ça a été une bonne journée. Je te dirais, tu dis que tu as croisé beaucoup de collectionneurs qui étaient contents. Les gens étaient contents de venir chercher du Upper Deck Series 1. Et on a encore la preuve. On a encore eu la preuve aujourd'hui qui est un Austin Matthews dans Series 1, qui est un talent générationnel, qui est un talent local, qui est ni un ni l'autre. Sais-tu quoi? Les gens ont hâte à Series 1. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent la saison de hockey n'est pas commencée tant que Series 1 n'est pas ses tablettes. Alors, c'est un peu ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Et c'est quand même plate la constatation ce matin. J'ai un client qui ouvre une boîte au comptoir et la première chose qu'il me dit, c'est « Ouf! » Ah, au moins, les cartes sont en bonne condition cette année. Hein?
Et ben, là, ça a été mon premier constat de mon bar, moi aussi.
Oh, oui, mais je me dis, c'est triste en désespoir quand la première constatation, c'est pas « Wow, les cartes sont belles, wow, les young guns sont belles ». Non, non. Hey, il n'y a rien de brisé. Faut-tu que les collectionneurs aient été échaudés l'an passé rien qu'un peu? que voulez-vous? Mais non, comme tu dis, Upper Deck, on a livré la marchandise cette année là, et de beaucoup. Je n'ai pas vu d'histoire d'horreur, je n'ai pas, pas vu des centaines et des centaines de cartes encore, mais je n'ai pas vu rien de triste, mettons.
Mettons, espérons que cette nouvelle série 1-là soit la ligne de base, qu'on ne descendra pas en bas de ça au niveau de la qualité. Moi, je l'ai trouvé très belle. J'ai ouvert deux boîtes, quelques paquets pour me réchauffer quand même. Là, tu ne veux pas ouvrir un nouveau produit à fret de même et avoir l'air un peu stupide devant le public de l'imaginaire. Puis les internets. Donc, les quelques paquets, j'ai vu des défauts là, sur certaines cartes, mais dans les boîtes que j'ai ouvertes, t'sais, honnêtement, la Matt Boldy que j'ai sortie, j'ai évité de l'acheter. C'est-à-dire, je l'ai laissé pour les gens qui sont fans de Matt Boldy, qui veulent le collectionner puis aller le chercher dès la première journée. Je me suis dit que ça pouvait être une belle touche. Mais j'ai hésité à l'acheter parce que je me suis dit, d'après moi, vient de sortir une PSA 10. Là. Je suis pas mal certain. Si ce n'est pas une PSA 10, c'est une BGS 9.5, c'est sûr et certain. La carte très belle. J'ai passé plusieurs secondes à la regarder. Aucune print line. Peut-être un petit coin là, qui me faisait hésiter un peu. Mais pour le reste, elle était très, très belle. Puis le design des cartes, moi, je le trouve très beau. Je n'ai pas vu personne qui m'a dit qu'il était déçu. Je me suis promené sur les interwebs. J'ai regardé quelques breaks. J'ai vu plusieurs commentaires des gens qui m'ont écrit en privé. Honnêtement, là, fun rip. En bon français, là, très, très fun rip.
Non, effectivement. Ben, on a ouvert deux boîtes en fin d'après-midi pour se sustenter, on va dire ça comme ça. Non, c'est le constat que j'ai eu aussi. La qualité est là. C'est le fun à ouvrir. Je vais te parler de cartes de base. Là. Il y a probablement trois personnes qui vont être intéressées à entendre ça. T'es un peu fasciné par le choix de mauvaises photos de la collection de base.
Ça, moi, j'ai trouvé. Moi, ça me fait beaucoup penser à Top Stadium Club.
OK, mais là, la carte de Connor McDavid, là. Ça ressemble à une carte religieuse des années 1910-1920 environ. Là.
On va juste. Une carte religieuse des années 1910-1920.
Je vais te m'envoyer des photos. Beaucoup de headshots. Puis surtout, à ce qui concerne les gardiens de but, Upper Deck, c'est la série la plus accessible. Les photos, les belles couleurs et tout et tout. Et mon Dieu, que pour certaines cartes, ils l'ont échappé. Et je me suis rendu compte, mon Greg, que j'avais oublié une part de l'histoire de notre province et du Canadien. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a Cale Clegg dans la collection.
Cale Clegg! J'en ai pas sorti des Cale Clegg, à moins que j'aille passer très rapidement là-dessus. J'aimais beaucoup Cale Clegg, moi, à LA, puis finalement, c'est ça. Il est rendu, je ne sais même plus il est rendu où.
J'en ai sorti une, et mon réflexe a été... Hein? C'est vrai, il a existé, cet individu.
Eh, bah, boy. C'est vrai. Il a fait partie de ce chapitre peu glorieux des Canadiens. J'ai aimé le design des inserts aussi. Tu sais, je me souviens plus quoi, Defense. Je devrais peut-être sortir le checklist si on est en train de regarder ça. Mais j'ai beaucoup aimé ce design-là qui m'a rappelé une vieille carte de Gretzky que j'avais. On en a déjà parlé ensemble, là, mais cette carte de Gretzky de son 802e but. Puis ils ont fait une espèce d'insert comme ça l'an dernier avec Connor McDavid, d'ailleurs. Je trouve ça magnifique. Cette carte-là. Ils ont fait la même chose aussi avec les centres. Donc, quelque chose center.
Center of attention.
C'est-tu ça, center of attention?
Mm-hmm, oui.
Bon, donc, oui, c'est ça, center of attention. J'ai sorti deux Patrice Bergeron que j'ai beaucoup aimé. Le population count également. Donc, qui joue avec la terminologie de grading, là. J'en ai sorti une sur 500 de mon côté. Tu sais, t'en as de 20 sur 50, sur 25, sur 10. J'ai hâte de voir la valeur de ça. Et les UD Portraits que je trouve beaucoup, beaucoup supérieure à celle de l'an dernier, là, qui était comme grise et plate. Je ne sais pas qui a donné cette idée-là. Là. Mais un peu mieux cette année. J'essaie de trouver pour la défensive. Le defense mechanism. J'en ai sorti. Honnêtement, là, j'espère qu'il y a des collectionneurs qui vont tenter de faire ce set-là au complet. Il y a 30 cartes. Tu sais, un genre de set qui pourrait être le fun, pas trop cher, avec des beaux noms dedans. Là. Je trouve ça super intéressant. Tu allais dire quoi, mon beau Yannick?
J'ai un petit faible pour les freestyles.
J'en ai pas sorti.
Ils sont un petit peu plus rares quand même. Là. C'est environ une ou trois boîtes. On est dans le shiny, on est dans le métallique. Je pense que j'ai pogné Bobrovski, si mon souvenir est bon. Là, c'est pas. Donc, le nom ne m'a pas frappé, mais la beauté, l'originalité de la carte. On est toujours à se plaindre. Copper Deck ramène toujours les mêmes inserts. Year in, year out. T'sais, côté insert cette année, on s'est un petit peu dépassé. Et là, il y a quelques Easter eggs non annoncés. Tu vois, ils ont entendu la semaine passée, je te parlais de faire des Young Guns en noir et blanc. Ben, ils ont fait des canvas noir et blanc cette année.
Oui, j'en ai sorti une.
De quel joueur pour le fun?
D'après moi, ça ne vaudra pas cher. Je me suis complètement trompé. Tu as 50 cartes dans le Freestyles checklist et j'aurais beaucoup aimé ça en sortir une, juste pour finir avec celle-là, parce que ça me fait penser aux fameux track tags qu'il y avait dans Top Scrum Formule 1 2020, qui était magnifique, puis qu'il y a beaucoup de collectionneurs justement qui essaient de faire le set de ça. Donc, j'imagine que les Freestyles ont été inspirés de ça. Les black and white, ce n'était pas, je ne sais pas son où. Ben, j'imagine que c'est dans les canvas. Là.
Ben, c'est le même checklist que les canvas. Là. C'est carrément.
Bon, c'est ça, mais c'était pas une recrue. Là. Et je me souviens que j'ai sorti la carte. Vous allez voir sur la vidéo là, qui est sur la page Facebook l'imaginaire. J'ai dit, coudonc, c'est une black canvas. Et j'ai continué mes activités à ce moment-là. Je l'ai bien sûr sleevé, top-loadé, suited and booted. Puis j'ai continué. Il y en a qui trouvent ça drôle. Mais probablement que dans l'excitation du moment, j'ai pas réalisé c'était quoi. Mais c'est ça, j'en ai sorti. C'était quand même assez intéressant, mais c'est ça, c'était pas. Je pense que c'était Drysdale.
Oh, OK. Jimmy Drysdale.
Maintenant que je vois son nom, mais une carte de deuxième année, on sait dans le hobby, ça fait quoi au hockey, là? Donc, c'est ça. Overall, avant qu'on passe la classe recrue, tu donnes une note de combien à date à ce produit-là?
À date, moi, je te dirais, je suis dans le 9 et j'ai hâte de voir, parce que là, on s'entend, on n'a même pas 24 heures là, de sortie. Regardez sur eBay, je ne sais pas si tu as vu les Attacking Zones, qui sont une espèce de une de tous les 1152 paquets. Une espèce de set clear cut acétate qui a de l'air magnifique. Et prenez le set le plus weird, le fameux set des Home Heist. Qui, il y en a deux en vente sur eBay, là, dont Frankie Lutler là, qui en vend une, qui vend celle de Buffalo. C'est une carte horizontale avec une forme de patinoire et le logo d'une équipe au centre. That's it. Et c'est supposément des cartes qui sont glow in the dark.
Ah bon?
Alors, ça va être. Oui, ça va. ça va être à voir. Ça a l'air assez weird, merci, comme carte. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en personne. C'est sûr, tu pognes ça. Tu as le droit de ne pas être excité. C'est une carte avec le logo d'une équipe sur une patinoire. Là. Mais ça va être de voir c'est quel. À quel point c'est rare.
Ça me rappelle quand j'avais sorti la carte de la mascotte des Capitals de Washington et que tout le monde s'était mis à capoter dans un break. Et j'étais mais que se passe-t-il? Ils m'ont dit, non, je pense que tu ne comprends pas ce que tu viens de sortir. Et effectivement, je n'avais pas compris. J'étais, non, mais vous êtes sérieux? Là? Le monde paye si cher que ça pour des cartes de mascotte. J'adore le monde de la collection. Pour vrai, là, j'adore ça. Je pense qu'il n'y a pas son pareil. C'est vraiment curieux des fois à quel point on peut payer cher pour des cartes. tu sais, je sais pas. Si, mettons, quand j'étais jeune, tu m'avais dit, « Hey, Greg, je sais pas, tu vas payer des centaines de dollars pour des cartes de mascotte. » T'aurais peut-être pas cru. On remarque que c'est pas mon cas non plus, mais je trouve ça admirable, ceux qui font le set au complet, tout ça. Là. Ceci étant dit, je trouve. Puis, je suis pas mal certain que ceux qui collectionnent le set de mascotte au complet se disent la même affaire, que c'est des PC assez uniques. Tiens, c'est ça de même. La classe de recrue maintenant. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a plusieurs recrues dans cette classe-là. Tu sais, contrairement à la série 1 l'an dernier, qui a, mettons, un joueur et demi, deux joueurs qui font la classe de recrue à ce jour. Tu sais, on s'entend que ça peut toujours changer. Là, il y en a plusieurs qui sont bien intéressants. Il y a plusieurs noms qu'on peut sortir. Et ça me laisse croire que dans le temps, t'sais, plus on va avancer dans les prochains mois, les prochaines années, ceux qui collectionnent les boîtes fermées, les caisses fermées, vont, ben, chaque année, ça continue de monter tout le temps, mais celle-ci pourrait être une classe de recrues très intéressante avec plusieurs joueurs qui vont devenir dominants dans la Ligue nationale.
Non, je le pense aussi. Il y a beaucoup. Écoute, ça fait deux épisodes qu'on en parle. Beaucoup de noms intéressants qui jouent un peu dans des marchés qu'on voit moins. On va dire ça poliment comme ça. Là. Mais je pense que le marché de Minnesota est très bien représenté dans Upper Deck Série 1. Et pas besoin d'être un fin stratège pour comprendre que. Matty Beniers, y a-t-il quelqu'un qui sait exactement comment dire son nom?
Beniers.
Je pense qu'on réalise que Matty Beniers est le cornerstone du Kraken de Seattle. Je pense que l'équipe va être basée autour de ce joueur qui, je ne dirais pas qu'il sort de nulle part, mais qui a déjà des statistiques fort impressionnantes après quoi, il a joué 10 games l'an passé, il y a 12 de jouer cette année. Après 22 matchs, il doit avoir 18 points en carrière.
Mm-hmm.
Disons que c'est un bon début. Et la beauté de ça, c'est que on parle de 5, 6, 7, 8 noms ce soir. Et peut-être que dans 6 mois, on va parler de noms qui ne sont pas dans cette liste, qui vont être sortis d'absolument nulle part.
Ben, c'est ça.
C'est ça la beauté du hobby.
Ben, c'est ça qui est intéressant. T'sais, quand on parle de Matty Beniers, son talent est indéniable. T'sais. Puis même, j'avais eu la chance et l'honneur de m'entretenir avec Yannick Gourde, qui le côtoie un petit peu et qui réagissait aussi au dernier repêchage, bien sûr, du Kraken de Seattle avec le joueur qui est un peu comme Voldemort ici à Montréal. On nomme pas son nom. T'sais. Mais bref, c'est un Yannick Gourde qui leur montre l'exemple aussi d'être un centre travaillant puis tout le reste. Donc, son temps de bonne main, tout ça pour dire, j'y crois beaucoup également. Mais je pense que celui qui, je ne sais pas, qui a l'air d'avoir le plus de hype, oui, il y a du Beniers, les gens veulent le chercher, mais Matt Boldy, là. Sa carte est magnifique, sa carte recrue. Le design en partant cette année, on le dit, on le redit, des Young Guns, superbe. Mais ouais, moi, je pense que Matt Boldy a des bonnes chances de bien grandir. Et Owen Power, là, on peut-tu se rappeler ce qu'il a fait, lui, dans les tournois internationaux avant d'arriver dans la Ligue nationale? Je comprends qu'il est...
On peut se rappeler aussi que c'est un first pick overall.
Oui, exactement. Il est à Buffalo, là. Vous allez me répondre, vous aurez raison, mais tu sais, une carrière, c'est long dans le hockey. Tu sais, Wind Power, on ne sait jamais ce qui peut arriver. T'sais. Donc, des bons holds à long terme. Marco Rossi, Jack Quinn, qui peut être très intéressant aussi, qui est encore à Buffalo, lui également. Puis tu sais, il y a des Québécois intéressants aussi, Jacob Perrault, Thomas Bordelot, qui sont dans cette checklist-là, qui sont intéressants aussi, qui peuvent être des bons, en bon français, des bons pôles, donc les numéros respectivement 212 et 210. Kent Johnson à Columbus, mais tu sais, Jordan Harris, là, joue pas pire, lui, depuis le début de la saison.
Mm-hmm. Oh oui, effectivement.
Il joue, lui?
Au bout de l'autoroute.
Non, c'est toi qui es au bout de l'autoroute, Big.
Il joue dans la ville où on ne peut pas rentrer, c'est ça.
Ouais, c'est ça. La ville qui a plus de deux liens.
Effectivement. Mais non, ben, c'est un peu souvent ça, malheureusement. T'sais, les gens vont dire ouais, c'est un défenseur. Harris joue de façon assez surprenante cette année, là. Mais étant donné sa position, oui, je pense que ça va être une valeur quand somme toute sûre à Montréal, dans le marché québécois. Mais ça va être de voir overall aussi dans le marché nord-américain, comment qu'il va tirer son épingle du jeu. Mais tu vois, je vérifiais tantôt, je regardais les prix tout à l'heure, et les Beniers se vendent plus cher que les Boldies.
Ouais.
Les Boldies vendent environ 125-135. Les Beniers sont à 150, 175 même cet après-midi. On le sait tous, là, ça ne restera pas à ce prix-là longtemps. Là.
C'est quand même moins pire que ce qu'on a vu l'an dernier. Te souviens-tu Zegras et Caulfield, les deux? Et Zegras, à moins que je me trompe, là, on parle d'une plonge de 85%. Ça se vendait 300 $ canadiens à peu près la journée de la sortie.
Ouais.
Mais c'est peut-être parce que ça faisait tellement longtemps qu'on attendait une série 1.
Et voilà.
Et voilà. Qui a causé cette enflammée des prix. Là. Je me souviens, je regardais ça. Moi, je me disais, ben, Seigneur, mais que se passe-t-il?
Ma parole, Yvon.
ma parole. J'adore ça. Mais ouais, c'est ça. Et Cole Caulfield aussi. On remarque que Cole Caulfield, tranquillement, pas vite, est en train de remonter pas mal là où il était à la journée de la sortie. C'est fou quand tu regardes ça. Hein? Quand tu tiens une carte, là, j'aimerais ça un jour peut-être accomplir ça. Tu sors une carte la journée de sa sortie. Et je vais faire, mettons, là, comme si j'adoptais la carte de Matt Boldy, là, sa Young Guns. Et je vais noter son prix aujourd'hui, la journée que je l'ai sorti. Je ne l'ai pas. Je le rappelle, si vous écoutez ce podcast-là, jeudi matin, vendredi, vous avez des bonnes chances d'aller la trouver. Je vous le dis, elle est vraiment belle. Elle est à la boutique de Laval, au carrefour de l'imaginaire. Allez voir mon chum Steph, Nathan, Dave, peu importe, si vous la voulez. Premier arrivé, premier servi. Ceci étant dit, étant donné que j'ai eu la chance de la sortir, je vais suivre son évolution de prix raw à partir de désormais, comme on disait dans le temps, jusqu'à, on va probablement s'en reparler d'une couple d'années. T'sais. Voir le prix de la folie aujourd'hui de sa sortie, tu dis à peu près 125-130.
Mm-hmm.
Jusqu'à, mettons, qu'il continue de. ou qu'il atteigne les performances dont on s'attend de lui.
Ben, c'est sûr, il y a la plonge. Il y a une plonge qui s'en vient. Moi, je te jure, il y a deux plonges. Là, il y a la plonge, on va dire, post-sortie de série 1. On s'entend probablement que lundi prochain, déjà, on va avoir une bonne idée de la valeur, pas réelle, mais de la valeur plus réaliste de ces cartes-là. Mais là, c'est sûr, dans une semaine, deux semaines, quand le retail, quand les tin box, quand les blaster box, quand les fat packs vont être sur le marché, watch out. Là, c'est sûr que ça plonge et ça ne peut pas faire autrement parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui attendent les watch retail, les tin box. Mais là, attendez-vous, et c'est toujours pareil à chaque année. L'an passé, ça avait donné toute qu'une go. Beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi ça baisse autant, pourquoi ça partit si haut. Ben, ça passe si haut parce que les gens ont incroyablement hâte de voir les cartes et la plonge arrive parce que, à un moment donné, les watch retail sont moins chers, les blasters sont moins chers, les tin box sont moins chers. Il y en a partout. Oui, il y en a dans les magasins spécialisés comme nous. Il y en a aussi chez Walmart. Il y en a un petit peu partout. Alors là, ça sort et pas à peu près. Et il y a beaucoup de gens qui pognent ça, qui lisent sur Internet. Finit toujours par avoir quelques personnes qui veulent juste vendre des qui sacquent un peu là, du prix qu'ils ont pour ça. Alors, c'est sûr que là, à un moment donné, on a une bonne correction. Et tranquillement, pas vite, ben, si les performances sont vraiment surprenantes, là, les prix vont remonter. Mais c'est sûr que c'est
ça, là, c'est un roller coaster. Là. C'est,
exactement.
Et à la fin de la saison, ben, en fait, à la fin de la saison, l'été prochain, on ne se le cachera pas, le Cole Caulfield cet été, là, j'en ai acheté deux pour 80$ US. Là.
Cadeau.
84, excuse-moi, 84 US. Et finalement, j'ai fini par les revendre à des kids, attendez, il faut finir ma phrase. Là. J'ai l'impression que je suis en train de dire que je le revends à des kids. Mais non, je l'avais offert dans le groupe Facebook. J'avais dit, tu sais, pour des gens qui veulent avoir les Young Guns de Cole Caulfield, je les swing au prix que j'ai payé. C'est ce que je veux faire. Donc, ça a été bien le fun de voir les photos des kids avec les Cole Caulfield au prix que je l'ai payé dans leurs mains. Bref, je ne me souviens plus pourquoi je disais ça. Mais ouais, c'est ça, parce que c'est un roller coaster de prix. Là, la Cole Caulfield, elle va continuer de monter durant la saison, probablement rebaisser aussi dans l'entre-saison également. Uh-huh. Mais ça, on le mentionne à chaque semaine. À chaque semaine. As-tu autre chose sur... Ah oui, on a une question très fort intéressante. Yannick.
J'aime les questions, Greg.
Seul toi peux répondre, et je ne me rappelle plus, je suis désolé à l'auditeur qui nous a envoyé ça. Il y a 49 Young Guns dans le set.
Yes, sir.
Est-ce qu'ils ont toutes, c'est du féminin, est-ce que...
La même quantité imprimée.
Exactement.
Ben oui. Moi, je suis toujours les Young Guns. Il y a une seule et unique année que les Young Guns sont plus rares. 2002-2003, l'année de Henrik Zetterberg et Rick Nash, ainsi que l'année de Ron Hennessy, pour te rappeler de bons souvenirs.
Hey, Rick Nash, je l'aimais. Lui, il a compté le plus beau but de l'histoire du hockey, selon moi, contre les Coyotes de l'Arizona. Allez voir ça.
Tu devrais mettre le lien sur le groupe. Et c'est ça, ces cartes-là sont excessivement rares. Là. C'est l'année des Super Short Print Young Guns. Alors, c'est pour ça que quand vous vous promenez sur Internet, vous voyez des Zetterberg, des Rick Nash. Oui, ça se vend 400, 350, 400, 500 $ la carte. Pourquoi? Parce que c'est incroyablement rare. C'était rare, là, 20 ans. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Il y a autant de Matthew Boldy sur le marché que de Marco Rossi, que de n'importe quel des 50 Young Guns. Il n'y en a pas de plus rare que l'autre. Des fois, les gens vont dire « Je cherche celle-là, et non ben rare. » Elle n'est pas plus rare que les autres. Ça, c'est comme les clés de char. T'sais, plus que tu les cherches, moins que tu les trouves. Là, fait que c'est ça. Il y a pas... faut pas penser qu'ils font plus, qu'ils font moins de Beniers puis qu'ils font moins... Non.
Merci de me rappeler ça après le nombre de boîtes de série 2 que j'ai ouvert l'année passée. Ben de l'année passée, c'est-à-dire, c'est tout.
Et de toute façon, on le voit normalement dans une caisse, on va avoir la collection complète des 50 Young Guns et on en a 22 supplémentaires. Là. C'est sûr que dans les dernières années, j'ai vu des caisses un petit peu bizarres des fois, là, avec des fois 4 fois, 5 fois la même Young Guns, ne pas avoir toutes. Ne pas avoir un exemplaire de chaque Young Guns dans la caisse, là. Mais la grande majorité du temps, on fait le set de 1 à 250 dans une caisse. Là. Alors non, il n'y en a pas de plus rare.
Ceci étant dit, regarde, on vous le dit, si le budget, ben, ça vous tente, si le budget vous le permet, je pense qu'à 130 $ plus taxes, j'ai le droit de dire ça sur le podcast. Oui.
Sûrement.
À ce prix-là, on a le droit, tout mélangé, je me suis mis le pied dans la bouche, mais non, je l'ai dit en ligne, à 130 $ plus taxes, la boîte, je pense que ça vaut la peine, grandement, tu sais, selon moi. Est-ce que c'est un gage de succès, ce que vous dites? Ça ne l'est jamais, on s'entend. Et je sais qu'il y a, j'ai vu plusieurs messages sortir aujourd'hui, tu sais, allez supporter vos shops locales. Et je pense que c'est important aussi. Mm-hmm. Tu sais? Donc, l'imaginaire, que ce soit l'imaginaire ou les autres qui font partie de la communauté, qui sont du monde, qui sont des chums. Je pense que c'est important dans une série, dans une sortie importante comme celle-ci. Puis gardez, si jamais ça vous tente, ceux qui n'ont pas d'enfants, par exemple, ou ceux qui en ouvrent certaines avec leurs enfants, puis il y en a d'autres qui veulent l'ouvrir à boutique, comme toi, tu as vu des gens le faire, c'est tout le temps un beau moment, ça, à vivre. Oui. Pour le client, puis pour vous autres aussi, qui sont là, de voir, de vivre ces beaux moments-là. C'était un méchant beau moment tantôt, puis c'est drôle. Tu sais, c'est pas une carte à 10 000, mais quand on a sorti la Boldy, on était là, bon, mais tu sais, c'est un des trois chases peut-être de cette série-là, puis c'est un beau moment de le vivre, tu sais.
Ah non, absolument, là, absolument. Et souvent, les gens vont dire, ben, je préfère ouvrir mes boîtes ici, fait comme ça, j'ouvre ma boîte avec des tripeux, et s'il se passe quoi, si je pogne quoi que ce soit, ben, toujours un one-touch ou un top-load qui n'est pas trop loin pour venir protéger la pièce tant convoitée. Alors, non, c'est toujours le fun de partager ces moments-là avec d'autres tripeux comme nous autres.
Bon, merveilleux. Est-ce que tu mets toi aussi ton saut d'approbation finalement sur cette série 1?
Absolument, et surtout pour la carte numéro 122, Greg, de Ryan Reeves. J'aime Copper Deck mettre mon ami Ryan Reeves en beaucoup de séries cette année. On est deux en deux. Alors, continuez d'en amener, mes amis de chez Copper Deck. J'aime ça.
Je suis content que tu le mentionnes. Pour être super honnête, je l'avais complètement oublié quand j'ai ouvert ces boîtes-là, mais il me semble que si j'avais vu des Ryan Reeves, je m'en serais souvenu et j'en ai pas vu. Donc, je te rassure, je ne suis pas tombé dessus. Malheureusement pour toi, mon cher ami, mais je t'en souhaite en masse. Bon, non seulement la série 1 fait partie de ces sorties-là, mais la deuxième, on dirait que je dis ça comme s'il y avait un punch qui s'en venait, mais tout le monde le sait qu'il n'y en a pas parce qu'on en a parlé dans l'introduction. C'est j'aime ça avec ton micro quand on t'entend rire, mais juste en arrière. C'est comme un arrière-plan de.
Comme une mascotte qui rit.
Prism World Cup, mon chum.
Oui, monsieur.
Aïe, aïe. Là, j'avais peur. Solidement peur.
Moi aussi.
Ouais, toi aussi. Hein. Je sais qu'on en a parlé. Je me souviens même plus. On se parle tellement souvent que je me souviens même plus si c'était en onde ou hors d'onde. Regarde comme tu veux.
On avait parlé un peu quand Mosaic Road to World Cup était sorti.
Ce qui vaut à peu près comme une pomme de route, là. En passant. Après ça, ils ont sorti National Treasures, puis ça aussi, ça a fait comme une espèce de pomme de route. Puis on s'est dit, là, s'il vous plaît, ne refaites pas la même erreur avec Prism World Cup. Et tu sais, depuis que j'ai commencé à collectionner sérieusement, ça fait plus d'un an maintenant, qu'on parle, hey, la Coupe du Monde s'en vient, les cartes de soccer, ça va exploser. Hey, là, les sets de la Coupe du Monde, ça s'en vient, tout ça. Là, ils ont sorti Donruss Road to Qatar, qui est un produit complètement exécrable, si tu me demandes mon opinion à moi. Là. Parce que le design des cartes, il est pas beau en partant. Je suis un fan de Donruss, je l'ai souvent dit. Mais dans ce cas-ci, non. T'sais, oui, tu peux prendre des kaboom, il y a des les autographes intéressants, tout ça, mais bref. Ça faisait trois produits de Panini qui n'étaient pas super. Obsidian, j'ai beaucoup aimé ça cette année. Et le Prism, je le dis en ce moment, après la première journée, puis après avoir quasiment rien frappé dans deux breaks qui m'ont coûté quand même cher, c'est le produit de l'année.
Ben, écoute, t'as regardé ce produit-là beaucoup plus que moi, mon Greg. Moi, je te dirais, j'ai quasiment démissionné en voyant qu'on n'avait pas de... qu'il n'y avait aucune signature de deux joueurs canadiens.
Ouais, il n'y a aucune signature, mais il y a quand même deux case hits d'Alfonso Davies. Un, le National Landmark qui est magnifique. Et deux, le Color Wheel qui est comme un Color Blast qui, moi, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop sûrs à propos de ça. Et il y en a un autre qui est le National Pride que Jonathan David est dessus. Et j'ai été convaincu ce matin quand mon bon chum, Sports Cards Lido, Charles-Laurent Veilleux, m'a envoyé un lien d'une Jonathan David Blue Shimmer sur 5 et a dit
oh,
achète ça.
Puis,
j'étais à deux doigts d'avoir la négociation et il m'a dit j'ai eu un offre à 950, je conduisais, j'ai dit je vais me rendre à destination, je vais régler ça. Et quand j'allais dire je t'offre 970, juste pour être sûr de l'avoir, il m'a dit j'avais pas le temps d'attendre, j'ai vendu à 950. Là, j'ai dit ta, je finirai pas mon mot.
Oui. On n'a pas encore sacré sur l'épisode, Greg, aujourd'hui. Hein?
Ça va très bien, notre affaire. Continuons. Sacrement. Non. Puis là, je me suis mis à regarder quelques breaks ici et là, à gauche, à droite, des gens qui ont sorti des belles cartes. Et là, je me suis rendu compte que finalement, les mangas, là, à part celles de Phil Foden, sont insane, en bon français. Et j'ai vu beaucoup de hits sortir, honnêtement, au point que je me disais, OK, avec le print run, on s'entend qu'ils ont fait 4500 caisses de ce produit-là. Là, je parle du hobby. Je ne parle pas de choice, de breakaway.
First of the line et compagnie.
First of the line, des blasters, de tout le reste. Là. Le print run, il est énorme sur ce produit-là, c'est-à-dire avec toutes les versions différentes. Et bien sûr, bon, dans le Choice, là, tu vas avoir tout le zoo disponible, là, les Tigers, les Zebras, les Elephants, les autres, qui ont une grosse valeur dans le hobby. Et moi, j'aime beaucoup le design des Breakaway. Je m'en allais où avec ça? Et je me suis dit, justement, parce que tu as un National Pride, un National Landmark, tu as les Color Wheel. Je pensais qu'il y en avait un. Et les mangas, bien sûr, tu en avais un par case. Mais non, tu en as un de chaque ou presque par case. Donc, tu as à peu près toutes les cases que j'ai vues avaient un manga, un National Landmark et un National Pride, par exemple. Ou deux mangas, même, dans certaines cases que j'ai vues. Et écoute, honnêtement, ça... Ça a comme ravivé mon espoir, si on veut, de ce set-là de Prism. J'ai hâte de voir, j'ai vu des comparatifs de combien. Regardez les boîtes de Prism 2014, 2018 et maintenant 2022. Bien sûr, les print runs sont beaucoup plus petits en 2014-2018.
OK, oui.
Mais je pense que même si on n'aura pas des spikes, et ça, regarde, je vous dis ça, là, il y en a pas vraiment qui nous écoutent dans leur voiture puis qui tapent sur leur volant de rire en disant « Hey, le kid, ça fait 24 heures que le produit est sorti. » Vous avez raison. Mais tu sais, quand on regarde le print run de celui de 2022 versus les autres, je pense pas qu'on va avoir des hausses aussi fulgurantes des boîtes à long terme. Mais je pense que c'est il y a tellement de belles recrues dans ce produit-là puis c'est tellement la première Coupe du monde de tellement de joueurs des dernières années qui ont été recrues qu'à un moment donné, ça va être un bon placement à long terme aussi pour ceux qui sont capables, qui ne sont pas comme moi, puis qui sont capables de garder les boîtes fermées sans les ouvrir.
Non, c'est bien, tu l'as dit, Prism World Cup. Même si, oui, ils en ont fait plus qu'en 2014, oui, ils en ont fait plus qu'en 2018, ça reste une valeur somme toute sûre. Et non, le checklist de... J'aime pas dire recrue parce que j'ai l'impression qu'au soccer, le soccer est assurément le sport qui est une jungle côté recrue. Il n'y a pas de guideline, il n'y a pas d'année que tu peux être une recrue. J'ai l'impression que c'est encore en ébullition et il n'y a pas... C'est pas comme dans les quatre autres sports majeurs que... ta carte recrue, c'est cette saison-là et rien d'autre. C'est un gros débat là, si vous promenez sur les groupes de discussion, sur les forums. Pourquoi lui est recrue, voyons, ça n'a pas de bon sens tout et tout. Mais ça va être une Coupe du Monde importante, ça va être une Coupe du Monde intéressante. Et non, je pense que Prism semble livrer la marchandise. Pendant que tu parlais, Greg, j'ai trouvé une image de la manga de Phil Foden.
Horrible.
Et C'était très poli. T'es très poli. C'est. Si un jour j'ai une carte et elle ressemble à ça, je n'en veux pas. C'est atroce.
Mais écoute, la manga de Gavi est incroyable. C'est facile la plus belle carte du set. De toutes les cartes, qui ont, je ne sais même pas combien il y en a de total. Là. Il y a 300 bases, 190 autographes. Puis il y a toutes les autres inserts que vous voudrez et les super, super short print. Tu iras voir juste pour le plaisir celle de Gavi, celle de Christian Pulisic, celle de Bukayo Saka. Elles sont magnifiques. Et pour la première fois, là, tu sais que je ne suis pas le genre de gars, je veux faire des sets et tout le reste. Là. Il y en a combien des mangas? 25?
Ouf! Bonne chance.
Non, mais il y en a là-dedans. Écoute, je ne suis pas sûr que celle de Jürgen Klinsmann va valoir cher. Celle de Weston McKennie est très, très belle aussi. Dusan Vlahovic également avec la Serbie. Virgil van Dijk. J'ai vu celle de Gabriel Martinelli sortir aujourd'hui. Celle de Charles de Cataler. De Cattelaire, on peut le dire en français, qui joue pour la Belgique. T'sais, honnêtement, là, ça aussi, ça coûte pas mal plus cher qu'une série 1, on s'entend. Mais très, très satisfait. Puis, écoute, je suis rentré dans un break, j'ai acheté le Canada comme pays dans deux caisses complètes. J'ai eu quelques hits intéressants, mais sans plus. Je n'ai pas sorti de gros Jonathan David ni de gros Alfonso Davies, mais dans un autre, dans une boîte random avec un breaker qui m'a dit en back-down, ça serait le fun. Je suis tombé sur la Croatie et je suis tombé sur une Luka Sucic sur 199. C'est la Purple, si je ne m'abuse. Et un petit peu, j'essaie de chercher le nom de l'autre joueur. J'ai pris la Hyper Ice Prism. Cracked Ice Prism, pardon, qui est de Ivan Perisic. Donc, et honnêtement, le design des cartes, c'est très, très réussi. Très, très, très réussi.
Non, il n'y a pas de... Comment je te dirais bien? Il n'y a pas d'accro jusqu'à présent, là. C'est sûr qu'il y a toujours des gens pour trouver des bébites à un produit.
Le contrôle de la qualité n'est pas débile, là. Honnêtement.
Non, ben, Prism étant Prism aussi.
C'est là. Ça, exactement.
Mais je ne sais pas si tu as remarqué, Greg, tu n'as aucune chance de pogner une Redemption de Cristiano Ronaldo là-dedans parce qu'ils sont dans les paquets.
Ouais, mais ça, est-ce que je te l'ai dit? J'aime ça quand tu m'écoutes de même. Mais est-ce que je te l'ai dit que j'avais parlé avec Panini pendant une heure? Elle m'a tenu en ligne pendant une heure au téléphone.
Et qu'elle t'a dit que probablement que tes cartes sont dans un monstrueux backlog dans le backstore.
Oui, c'est ça. Elle dit, si j'étais toi, je ne demanderais pas nécessairement de redemption ou quoi que ce soit. Tu sais, je n'essaierais pas de changer parce que ça se peut qu'on ait tes cartes ici, mais qu'on soit tellement en arrière dans notre backlog. Et là, si je l'ai dit sur le dernier épisode, je m'en excuse, qu'on va peut-être juste les shipper bientôt. Tu sais. Elle dit, tu sais, ça fait 4 mois, fait que c'est... Habituellement, c'est entre 6 mois et un an.
Mm-hmm.
Et là, je me suis dit, ah bon? Puis en plus de ça, que j'en ai deux. Tu sais, là, on parlait de celle de Cristiano Ronaldo, mais j'en avais un autre qui est de Federico Valverde, qui lui joue pour l'Uruguay, qui est un des deux joueurs de marque de l'Uruguay avec Darwin Núñez, qui est l'attaquant de. Ben, Valverde joue pour Real Madrid et Núñez joue pour Liverpool. Et. Il y a Luis Suarez également, mais bon, c'est pas un jeune joueur comme les deux autres. Et Valverde, son autographe sur 20, tu sais, juste à dire, je crois que la Chrome sur 199, elle se vend comme 200$. Fait que c'est un pas périte, pareil. Puis ils me disent, bon, non, nous autres, ce qu'on pense, c'est que ça vaut 35$. Es-tu sérieux? Si tu veux m'échanger ça contre une carte de 35$? Je pense que je vais l'attendre, cette rédemption-là. T'sais. On va laisser ça comme de l'argent qui dort dans un CELI, quelque chose du genre. Ça vous dérange pas trop?
Non, c'est ça que tu as fait. Non, ça te dérange pas, on va attendre. On n'est pas si pressé que ça quand même. Là.
Et je veux juste apporter quelque chose sur Prism World Cup. Il faut faire attention aussi dans un produit comme celui-là où est-ce que les prix fluctuent énormément. Puis c'est arrivé à mon attention, puis je l'ai même mis dans le groupe parce que j'ai vu, puis là, vois-tu, il y a quelqu'un qui m'écrit en même temps pour savoir, tu sais, il y a beaucoup de breakers qui arrivent, puis qui tentent de tirer profit. Ça, je pense que ça ruine le hobby un peu aussi. D'autres qui se disent, moi, je me fous des règles, puis je veux être le premier à breaker ça, qui break ça à 5 fois les prix. J'ai vu un gars que je considère un ami dans le hobby tomber sur un spot. Écoute ça, il y a 32 pays, donc 32 équipes, random team, une boîte, Yannick. 45 $ canadiens l'équipe. Fais le calcul, le boy, là. C'est 1440 $ pour une boîte.
Alors que les boîtes se vendent quoi présentement?
Sur eBay?
Entre 850 puis 1000, mettons. Là. Même pas des first of the line. Là.
Pas des first of the line. Sur eBay, actuellement, tu peux en trouver à 500$. US. Fait que tu sais, là, c'est sûr que, bon, là, mettons que ouais, tu l'achètes là, ouais, aux États-Unis, il faut ta faire venir au Canada, tu vas payer des frais de douane, si tu as ça. Yannick, 1440 $. Juste pour vous donner une idée là, de mon petit spot Random Team de même, là, c'était quelque chose comme 30$ US pour deux équipes random là-dedans. J'ai pogné la Croatie. Puis c'était quoi l'autre pays? L'Allemagne. C'est quand même deux pays intéressants. Là. J'en revenais pas.
Mais le problème, Greg, c'est pas que ce breaker-là offre ce produit-là à ce prix-là. C'est que les gens ont tombé dans le panneau.
Mais Yannick, c'est impossible pour un breaker de faire ça avec l'affaire qui se passe là. Surtout au Canada, tu peux pas faire ça au hockey. Un breaker arriverait, ferait ça avec la série 1, là, il se ferait lancer des rushs, là, puis ça serait comme le walk of shame. Là. Tout le monde le dénoncerait.
Oh oui, ben c'est pas, j'allais dire, c'est pas compliqué, ça prend 24 heures et. Si c'est un magasin, il n'y a plus de licence, il n'y a plus le droit de vendre le produit. Là.
Exact. Mais au niveau du soccer, le monde, les gens se disent hey, combien de fois il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent hey, tu m'as convaincu avec ta passion là, à rentrer dans le soccer. Il y a du monde qui est comme mon chum Vincent qui me dit hey, moi, quand t'en parles, je roule des yeux solides. Là. Bref, il y a de la place pour tout le monde dans le lobby, mais les gens disent ça commence à m'intéresser et j'aimerais ça rentrer là-dedans. Ils ne savent pas, eux autres. Hey, écoute, un petit break, 45 $ OK, c'est le produit de l'année. Puis là, le breaker te le vend un peu, tu y fais confiance, puis ça, boum. Là, écoute, ta minute, là. Le gars en question, je ne veux pas le nommer, là, mais on va dire, je vais aller enlever mon spot, là. Ils diront rien. Puis je veux dire, je vais en breaker de ce produit-là, puis vous garderez les prix, on va être dedans, là. Tu sais, je ne sais pas. Puis même si je dis ça, je vais en breaker, c'est juste pour comparer les prix. Mais même si on n'en avait pas de boîte, je dirais la même affaire. Je trouve ça poche parce qu'après ça, le monde, hey, un break de soccer, si j'ai embarqué là-dedans, ça m'a coûté 45$, j'ai absolument rien pogné. Ouais, je te comprends, tu sais. Donc, tu as pris l'argent de quelqu'un, tu es parti à courir avec. Toi, je veux dire, je ne sais pas si tu es bien heureux avec ton 400 à 600$ de profit que tu as fait sur une seule boîte, mais tu viens de peut-être ruiner l'expérience puis d'essayer de faire grandir une certaine partie du hobby pour pas mal de monde.
Ouais, ben, on le sait tous, les produits Panini au Canada, c'est compliqué à avoir, c'est tough. Les dealers ne reçoivent pas énormément de boîtes. Là. On se mentira pas. Là. Moi, j'ai quelques boîtes. Là. J'ai même pas une boîte par magasin. Là. Alors, quelqu'un veut capitaliser sur la rareté de ce produit-là, fine. Mais c'est correct de vouloir manger, de vouloir faire un profit, mais Jesus Lord, man, c'est pas une boîte d'éminence non plus. Là. C'est pas quelque chose qui est incroyablement rare, là. C'est Prism.
Et là, non, c'est sûr. Je veux dire, 4500 caisses. Mm-hmm. Aïe, aïe, c'est du print.
Oui, puis, attends un peu, là. Le breakaway, le blaster, il va sûrement avoir des cello packs. Il va en avoir, inquiétez-vous pas, là. Inquiétez-vous pas, là. Des cellos, ils en ont fait en 2018, c'est sûr qu'ils vont faire en 2022 aussi, avec des parallèles exclusifs qu'on va trouver là-dedans.
Ouais, il va en avoir chez Walmart aussi, là, certains blasters, là.
Non, il va en avoir du stock.
Et je pense qu'on va breaker ce produit-là pendant longtemps. Puis c'est un produit qui va bien se tenir à long terme aussi. T'sais, ça va être le fun de dire, écoute, j'arrête, je me prends un petit paquet ici et là. Je me prends, tu sais, puis je voulais revenir rapidement. Je ne veux pas être trop long sur le soccer. Là. Si vous avez des questions, venez m'écrire en privé. Mettez-les sur le groupe, on va répondre, on va avoir du fun. Mais ne dormez pas sur Choice et Breakaway parce qu'il n'y a pas d'autographe dans les boîtes. Ne dormez pas là-dessus. La force de ce produit-là, c'est dans les couleurs et dans les parallèles. Et ces boîtes-là vont regorger de valeur, mon chum.
Non, ça, c'est sûr et certain. Sûr. On n'est pas... c'est juste que c'est pas tout le monde qui est habitué de ne pas courir après une carte autographiée.
Mais en ce qui concerne... d'accord avec toi.
Mais en ce qui concerne Prism... écoute, on s'entend, il y a beaucoup de. Un très grand nombre de parallèles a une valeur bien plus grande que plusieurs des noms là, sur le checklist. Là. Mais, excuse-moi, je ne sais pas si tu avais remarqué que. Puis je suis en train de lire ça en même temps qu'on se parle. Darwin Nunez et Christian Pulcich sont Redemption.
Oui, effectivement. Ça, c'est.
Ça casse le partant un peu, ça.
Mais ben, du côté des autographes, mais tiens, ça, encore une fois, ça dépend, mettons que tu achètes chez les Breakers, ça dépend du spot, ça dépend, tu sais, je vous le dis, il y a 190 autographes, là. Si vous achetez une boîte de ça en essayant de sortir une Cristiano Ronaldo ou une Lionel Messi, bonne chance. Mais tu sais, il y a tellement de joueurs dont c'est la première carte de Coupe du Monde, je pense qu'à long terme, je pense que les cartes sont belles, il y a des belles, les couleurs sont belles, il y a des forces, tu sais, les garder, les faire grader, attendre. T'sais. C'est pas l'année recrue de Pedri, mais c'est sa première Coupe du Monde. C'est pas l'année recrue de Vinicius Junior, mais c'est sa première Coupe du Monde. Même chose pour Ansu Fati. Il n'est pas dans le set de base, là. Il y a juste un autographe, mais il y a tellement de produits différents là-dedans. Les case hits, comme je l'ai dit, sont super beaux.
Comment ils ont pu oublier de mettre Ansu Fati dans le set? Qu'est-ce que
c'est ça? Tu veux un autre nom qui n'est pas dans le set?
Vas-y donc.
Je vais te donner une chance de le deviner, mettons. Ah non, il est dedans, excuse-moi. Excuse-moi. C'est dans Mosaïque qui n'était pas dedans. Jude Bellingham.
Ah, oui. Ouais, non, alors, mais là,
il est dedans.
Ouais, ben là, Mosaïque, on ne commencera pas à essayer de trouver des poux à Mosaïque, Road to the World Cup, Greg. Là.
Ben, il y a juste des poux, en fait. C'est un sac de poux. Mais laisse-moi regarder, juste si je ne me trompe pas, je crois. C'est ça, OK, c'est ça. Jude ne signe pas dans ce set-là. C'est très dommage. Et Jude n'est pas sur... on va finir avec ça parce que on a vraiment étiré la sauce au niveau... il y a Bukayo Saka. Ça, c'est un autre joueur que j'aime beaucoup. Qui, en fait, Bukayo Saka, en plus, n'a pas vraiment de carte recrue. Ça, c'est intéressant. Qui a un color wheel, qui a un manga aussi, Bukayo Saka. Mais Jude Bellingham... n'a pas de case hit de lui. Je trouve ça très intéressant. Il y en avait un avec Obsidian cette année, mais Phil Foden, Bukayo Saka et Mason Mount avec l'Angleterre en ont, mais pas Jude. Ça, ça me met en calvaire.
Non, ben, je comprends pas parce que c'est pas. Tu as le droit de ne pas mettre d'autographe d'un certain joueur. Tu te dis, ben, on n'est pas capable de s'entendre avec lui, il ne veut pas signer. Il y en a des raisons. Si c'est louable, c'est correct. Là. Mais faire une manga de Jude ou de faire n'importe quel autre insert, il n'y a pas besoin de demander la permission. Ils ont juste besoin de la faire. Et on s'entend, ça ne coûte pas plus cher ou moins cher à Panini. Et ça vient rajouter la valeur aux personnes qui achètent des cartes ou qui ouvrent des boîtes ou qui break. Là. C'est un peu particulier. Surtout, tu me nommes quelques noms qui sont dans le set des mangas et tu te dis... pourquoi ces noms-là sont là, mais ah non, Jude Bellingham n'est pas là.
Si tu fais que s'il y avait eu une manga de Jude, j'aurais dit à ma blonde, peut-être voyager moins l'année prochaine.
Moi, je pense qu'il n'aurait pas été satisfait, Greg.
Non, effectivement. Et là, on me regarde avec des gros yeux. Avant qu'on se laisse, mon chum, tu avais une autre nouvelle à m'annoncer. C'est Noël, puis tu me réservais une surprise.
Grosse annonce cet après-midi. Ben, on s'en doutait. Là. C'est un secret de polichinelle. Tops ont annoncé cet après-midi la sortie de Tops Chrome Formula One 2022.
Yes!
Pour le 28 décembre.
Ah, ils ne l'ont pas bougé, ils l'ont laissé là finalement.
Ouais, on resterait là.
Ah, wow.
Mais tu sais ce qu'est-ce qui est le fun, Greg, quand tu travailles dans ce domaine-là?
J'attends que tu me dises.
Entre Noël et jour de l'an. C'est sûr que tu n'as pas à date de sortie. C'est un cauchemar. Je ne sais pas pourquoi les compagnies nous sortent des produits de cette importance-là entre Noël et jour de l'an. Les gens ont zéro la tête à ça. Tu sais déjà que la saison de F1 va être terminée depuis un petit bout. Mais bon. Et Tops, je dirais pas continue, mais Tops refait le même stratagème que l'an passé. C'est-à-dire qu'on va avoir des boîtes hobby et des boîtes light. Et des boîtes light. Et si on remarque un peu ce qui se passe chez Tops dans le baseball depuis quelques produits, les boîtes light ont disparu magiquement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, sincèrement. Là,
Ça dépend, parce que si on se fie à Topps Chrome Champions League, les gens aimaient mieux breaker le light parce qu'il y avait plus de hits avec de couleurs justement que les autographes. Et on vit dans un monde où est-ce que les autographes, tu sais, oui, tu peux tomber sur un autographe de Lewis Hamilton ou de Max Verstappen ou de Lando Norris ou George Russell qui va valoir, même maintenant, les autres aussi, là, les autres pilotes ou presque, là, vont valoir très, très cher. Mais t'en as aussi que ça vaut pas cher la tonne. Là.
Ah non, ça va être triste. Là. On a encore des gars d'F2 là-dedans là, qui sont très, 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 très connus dans leur famille. Là. Alors, c'est ça. Date du 28 décembre. Et combien qu'on a de parallèles cette année, mon Greg, par carte?
J'ai peur, là.
Ben là, j'inclus hobby et light, là, parce que pour les gens qui seraient un petit peu moins au courant, c'est que dans les boîtes light, on va avoir les parallèles Ray Waves qui se trouvent exclusivement dans les boîtes light. Ouais, et dans le hobby, on a d'autres parallèles exclusifs et tout et tout. Mais tout ça pour dire qu'on a un grand total de 25-7 parallèles différents.
Wow!
Plus les 4 printing plates.
Ça, t'es-tu... Et là, on va réfléchir là-dessus. On va y revenir la semaine prochaine parce qu'il faut que je me prépare pour Toronto. J'ai hâte de te raconter ça, mon chum, d'aller au Sports Card Expo. D'ailleurs, j'en reviens pas que je manque la présence de mon joueur favori de mon enfance, Mike Modano, parce que j'y vais juste jeudi, vendredi et lui, il arrive samedi. Je suis pas un grand fan des séances de signature, mais j'aurais probablement embarqué dans celle-là. Enfin, bref. Mais ça... Ce que tu viens de dire, si on avait à faire un buy sell hold de la semaine, mettons, puis qu'on n'avait pas oublié, là, je vous dirais acheter, j'haïs ça de dire ça, mais je pense qu'un buy intéressant de la semaine, ce serait Topps Chrome F1 2020. Les hobby box.
Mm-hmm. Non, effectivement. Parce qu'on se souvient qu'on avait le choix entre du hobby et du hobby en 2020. Hein? Et qu'à chaque jour qui passe, la quantité de boîtes scellées diminue tranquillement, pas vite. Alors, non, pas une mauvaise déclaration, mon Greg.
J'aime ça, en avoir au moins une popée par épisode.
J'aime ton audace.
Yannick, je t'embrasse.
Moi aussi, mon Greg.
Merci pour cet excellent épisode à nouveau cette semaine. Merci à tout le monde de vous joindre à nous, encore une fois. Yannick et moi, on fait ça de façon quasi bénévole.
Récréative.
C'est une relation de passion qu'Yannick et moi, on a. Puis honnêtement, de répondre à vos questions à chaque semaine, de vous entendre dire que vous avez hâte que l'épisode sorte, ça, là, ça vaut tout l'or du monde.
Ça, non, j'ai un client cet après-midi qui m'a... son nom m'échappe, malheureusement, et qui m'a dit, j'ai découvert... ton podcast avec Greg et c'est tellement bon. Et là, je suis en train d'essayer de remonter, d'en écouter des anciens et tout et tout. mon Dieu, Seigneur. Puis justement, tu sais, quand tu te fais dire, hey, j'ai hâte au prochain épisode, OK, bon, ben, OK, merci de la pression. On va essayer de sortir un gros épisode encore cette semaine. Là. Alors, non, c'est très gratifiant. Mais comme je dis toujours à chaque fois, je me dis, bon, ben, on fait pas ça rien que pour toi et moi, Greg. On fait triper du monde avec ça. Là.
C'est ce qui est important parce que nous autres, on trippe. Puis faire tripper le monde quand tu trippes, c'est trippant.
Oui. Mon Dieu, que rajouter là-dessus?
Quelle phrase philosophique! Ça pour vous dire, merci gang d'être là. Dites-le à vos chums. On va grandir la gang. On va avoir du fun comme on a grandi à tous les semaines. Yannick, joyeux Noël encore une fois.
Oui, c'est mon Greg.
Longue vie à ce show de cartes. Puis on se reparle la semaine prochaine.
Bon Toronto Expo, mon ami.
Je sais pas si tu vas dormir beaucoup ce soir, mais je me le souhaite. J'ai 6 heures à chauffer demain matin, mais j'ai hâte de te raconter ça. Puis probablement que je vais t'appeler demain à la boutique en disant
Big. Big, c'est malade.
Salut, mon chum.
Bonne soirée, mon Big.